Décryptage. Marion Kazanov.
Les caméras, les micros du monde entier peuvent documenter la guerre en Ukraine. Ce front enlisé depuis des mois, cet éventuel cessez-le-feu toujours aussi vague, mais une autre bataille se joue à l'abri des regards dans les abysses de l'Atlantique, surtout dans la Baltique. Une autre guerre menée par la Russie, guerre sous-marine entre Moscou et les Occidentaux avec des moyens très sophistiqués. Mais de quoi s'agit-il précisément? Quelles sont les capacités des uns et des autres sous la mer et l'impact de ces activités? On répond à ces questions ce soir dans Décryptage. Et deux invités avec moi. Bonsoir Ulrich Bouna.
Bonsoir.
Analyste géopolitique, spécialiste de l'Europe centrale et de l'Est, chercheur associé chez Eurocréative. Je cite aussi cet ouvrage, La guerre hybride en Ukraine, quelle perspective aux éditions du Cygne. Et bonsoir Serge Bessanger.
Bonsoir.
Professeur à l'ESCE, spécialiste des câbles sous-marins. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais commencer d'abord par ce commandant de sous-marin français qui raconte un début d'altercation, du moins un moment un peu tendu avec la marine russe.
Alors on se trouvait à peu près à une centaine de kilomètres de l'enclave de Kaliningrad lorsque les aéronefs ont fait route vers nous. Et lorsque nous les avons interrogés à la radio pour signifier notre présence, en leur demandant de s'écarter. À ce moment-là, ils ont réagi en s'écartant. Et ensuite, dans un deuxième temps, ils ont fait route vers nous pour nous survoler en montrant leurs armes sous leurs ailes.
C'est une manière un peu affirmative aussi de montrer qu'eux sont là?
Oui, c'est ça. C'est une manière de montrer leur présence. Et nous avons continué notre patrouille sans changer de route, en exprimant finalement notre capacité à naviguer dans cette zone, exercer notre liberté de navigation dans cette zone.
Voilà, témoignage au micro RFI de Marielle Vitureau qui s'est embarquée il y a quelques mois dans un sous-marin français en mer Baltique. Ulrich Bouna, c'est quotidien ce genre de petit accrochage, ces armées qui montrent les muscles dans la Baltique?
Oui, pour le coup, en fait, et c'est pas qu'en Baltique, hein, on peut citer aussi la mer Noire, on peut citer aussi le détroit de Bering, effectivement, un petit peu toutes les zones, on va dire, un petit peu toutes les lignes de faille géopolitiques entre la Russie et l'Occident, pour faire simple, sont le témoin, alors depuis de nombreuses années, mais ça s'accélère depuis 2022, de situations de plus en plus en tension, on va dire, où effectivement les Russes n'hésitent pas à provoquer un petit peu soit les navires qui passent, les navires militaires ou les avions militaires. On a eu notamment des provocations sur des avions de surveillance français en mer Noire. On a eu effectivement aussi donc des avions et donc ce sous-marin qui ont été aussi identifiés et on va dire tracés par les forces russes. Donc effectivement, on est dans une situation où désormais, les Russes jouent énormément avec la limite. Ils ne franchissent pas la limite, ils ne tirent pas directement sur les équipements et sur les matériels occidentaux. Mais effectivement, ils essayent, ils poussent la limite. Ils jouent aussi beaucoup avec notamment la limite des zones maritimes et des zones aériennes des pays de la Baltique.
Alors c'est une enquête du Sunday Times qui relance aussi ce sujet de tension, notamment dans l'Atlantique. Hein, c'est notre sujet de ce soir. Et plus le journal britannique révèle que des capteurs aurait été déployé par la Russie dans les eaux britanniques pour surveiller les sous-marins nucléaires du Royaume-Uni. Ulrich Bouna, est-ce qu'on peut dire clairement que c'est de l'espionnage? Là, vous parliez un peu avant de techniques de dissuasion. Est-ce qu'il y a aussi ces activités d'espionnage?
Alors complètement. Et ça, pour le coup, je dirais que c'est complètement indépendant de tout ce qui peut se passer entre la Russie et l'Occident depuis 2022. On est sur effectivement de l'espionnage assez classique qui remonte d'ailleurs largement à la guerre froide. On sait que, par exemple, les Américains, lors de la guerre froide, avaient développé tout un réseau de capteurs mondiaux. Il y avait plusieurs dizaines de milliers de kilomètres de câbles avec des micros pour en fait, grosso modo, capter la signature acoustique des sous-marins soviétiques. Et les soviétiques faisaient pareil, essayaient de capter les signatures acoustiques en fait, des sous-marins occidentaux pour pouvoir les identifier et les traquer en fait, dans le monde entier.
Et ce genre de pratique ne s'est jamais arrêté depuis la guerre froide, c'est ce que dit aussi cette enquête du Sunday Times, mais elle s'est intensifiée. Depuis, on peut dire, 2022, le début de la guerre en Ukraine ou...
Complètement, effectivement. Là, on voit bien que les Russes, effectivement, augmentent leurs activités maritimes de surveillance. Et donc, effectivement, notamment avec ces bouées larguées au large de l'Angleterre, du Royaume-Uni, pour justement identifier la signature acoustique des sous-marins britanniques. Mais il est effectivement très probable. On sait que, par exemple, il y a des navires russes qui traînent au large de la rade de Brest lorsqu'il y a des sous-marins nucléaires français qui sortent. Donc, voilà, ce sont des pratiques assez anciennes, mais qui, on va dire, sont peut-être un peu plus ostentatoires, un peu plus agressifs de la part de la Russie depuis 2022.
Serge Bessanger, dans cette guerre sous l'Atlantique, il y a aussi la question des câbles sous-marins qui revient beaucoup ces derniers mois. Des câbles de communication sont régulièrement endommagés. Les soupçons se portent là aussi sur la Russie. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe si on abîme un de ces câbles ? Pourquoi la Russie mènerait de telles actions ?
Alors d'abord, l'attaque des câbles sous-marins, c'est une très vieille façon de faire la guerre. Ça a commencé au XIXe siècle, hein, si vous vous souvenez, avec notamment la guerre hispano-américaine. Les Américains ont commencé par sectionner les câbles qui reliaient les Philippines à Hong Kong, puis Cuba au continent américain. Donc c'est une façon très classique de faire la guerre. Et donc effectivement, on a ce problème-là actuellement avec les Chinois, les Russes, qui nous coupent des câbles un peu partout. Mais c'est une façon très très ancienne c'est une guerre hybride, hein, on n'est pas pour l'instant dans une guerre ouverte, mais c'est une pratique assez ancienne. Oui.
Mais qu'est-ce qu'elle peut faire, la Russie, en coupant ses câbles ? Est-ce qu'elle peut priver toute l'Europe d'Internet, par exemple ?
Alors, si vous coupez beaucoup de câbles, oui, vous pouvez avoir des perturbations très concrète et même la perte de l'Internet, effectivement. Alors, il y a quand même pas mal de câbles qui arrivent en Europe. Hein. Il y a la France est certes le hub européen qui relie l'Europe avec le reste du monde. Il faudrait couper pas mal de câbles, mais on a, par exemple, le hub de Marseille, hein, où on pourrait... une puissance malveillante pourrait s'amuser à couper 5 câbles et complètement paralyser l'activité là-bas. On a la Bretagne avec également 3 câbles très importants. On a la Vendée, on a maintenant le Porge, hein, du côté de Bordeaux, où il y a également un câble transatlantique très important. Et on voit régulièrement des espions russes là-bas. Ce serait
autour de ces câbles. Ulrich Bouna, vous vouliez rebondir sur ce que disait Serge Béchamp.
Oui, alors je suis complètement effectivement d'accord, mais juste pour rajouter qu'au-delà de ces câbles télécom, il y a aussi des câbles énergétiques. Et pour le coup, en mer Baltique, c'est assez souvent des câbles énergétiques qui ont été coupés et ça s'inscrivait dans un contexte assez particulier qui était que, grosso modo, courant février, la plaque des États baltes, en fait, qui était reliée au réseau électrique russe, a basculé sur le réseau électrique européen.
Ils se sont déconnectés.
Littéralement déconnectés du réseau russe pour basculer sur le réseau européen. Et donc, effectivement, dans toute cette période préparatoire, les Russes ont très vraisemblablement aussi cherché à déstabiliser les États baltes en coupant les câbles énergétiques, que ce soit du gaz ou de l'électricité, qui étaient notamment transférés depuis les pays nordiques vers les pays baltes.
Et Serge Bessanger, comment on s'y prend pour endommager tous ces câbles ? Est-ce qu'il faut avoir un gros arsenal des sous-marins ou est-ce qu'il suffit
Alors, c'est très vaste. Hein. Ça commence en général avec un simple chalutier. Hein. Vous laissez traîner votre ancre et puis... par inadvertance, entre guillemets, oui. Le câble est déplacé. Alors, on a eu des chalutiers chinois, par exemple, qui sont amusés à déplacer des câbles entre la France et les États-Unis. Ça entraîne des micro-coupures. Hein. C'est pas extrêmement grave. Mais bon, vous avez la perturbation de la Bourse de Paris, vous avez des choses comme ça. Ça, c'est l'acte le plus simple et, on va dire, le plus facile à mettre en place. Et puis après, vous avez effectivement, vous pouvez envoyer des sous-marins, des drones pour couper, sectionner les câbles littéralement en cisaillant les câbles. Ça se fait également de temps en temps.
Mais ça a l'air, la manière dont vous le dites, ça a l'air d'être plus facile. Voilà, on utilise simplement un bateau. Est-ce que ça se fait beaucoup d'aller déposer des drones, d'utiliser des sous-marins ? Est-ce qu'on sait ?
Ah oui, bien sûr, ça fait au moins 20 ans que les grandes puissances font ça. Hein. Oui.
Et s'il y a des choses à redire sur les capacités de l'armée russe sur Terre, on a beaucoup dit, Ulrich Bouna, qu'elle avait des équipements vétustes, etc. En revanche, son arsenal sous-marin est très développé, hein, je crois, moderne. Est-ce que ses capacités dépassent celles des Occidentaux, des membres de l'OTAN ?
Alors, elle dépasse pas. Alors, quand on parle de l'OTAN, il y a beaucoup de pays, donc on va dire que. Mais en tous les cas, en termes de capacité sous-marine, effectivement, la Russie est probablement au niveau à peu près, on va dire, des États-Unis et des plus grandes puissances. C'est essentiellement lié en fait à son statut de puissance nucléaire. Dans le cadre de la triade nucléaire, effectivement, avoir des sous-marins de très très haut niveau, c'est fondamental pour faire porter sa crédibilité nucléaire. Et donc, effectivement, les Russes engagent énormément d'argent. Pour maintenir et moderniser cette flotte de sous-marins. C'est beaucoup moins le cas pour les navires de surface. Pour le coup, la flotte russe de surface est dans un état quand même relativement compliqué. Elle a beaucoup plus de mal à se moderniser. Mais en revanche, les crédits, effectivement, sont sécurisés pour assurer que les sous-marins seront en tous les cas le plus performants possible. Et en parallèle de ça, la Russie a aussi développé, plus spécifiquement justement pour superviser le milieu sous-marin et les câbles sous-marins, différents navires dits scientifiques, notamment le Yantar, qui est en fait un navire qui d'ailleurs croise assez souvent au-dessus des câbles dans l'Atlantique et qui lui pour le coup possède notamment effectivement des sous-marins qui lui permettent, enfin des sous-marins de poche qui lui permettent en fait de s'approcher au plus près des câbles. Et donc effectivement la Russie possède comme ça, mais c'est un petit peu pareil dans tout, pour son aviation et pour son armée de terre, c'est-à-dire que la Russie effectivement est une puissance militaire ou qui n'est plus capable de qui n'a pas l'argent suffisant pour entretenir toute son armée, mais qui en revanche sur certaines capacités a des capacité de pointe.
Et que fait justement le Yantar s'il est au-dessus de ses câbles? Il essaie de cartographier un peu les artères de l'économie mondiale. Qu'est-ce que... C'est du repérage?
Il y a deux choses. Alors, il y a effectivement du repérage. Il y a, c'est aussi du signal... Alors, et de la cartographie, mais c'est aussi du signalement. C'est-à-dire que le Yantar sait très bien qu'il est suivi de très près par les marines de l'OTAN et notamment en fait lorsqu'il s'approche, enfin c'est ce qui s'est produit il y a quelques semaines, lorsqu'il s'est approché vraiment trop près et il restait beaucoup trop longtemps auprès de certains câbles en Méditerranée, il a été les marines occidentales lui ont fait comprendre qu'il était temps de partir et donc il est parti de l'Atlantique. Et donc si vous voulez c'est un peu de la provocation, en même temps qu'il y a des câbles qui sont sectionnés en Baltique, le Yantar suit des câbles beaucoup plus importants en Méditerranée ou en Atlantique et c'est un message plus ou moins subtil des Russes pour dire n'allez pas trop loin parce que nous avons les capacités de faire ce que nous faisons en Baltique, beaucoup plus au large, dans l'Atlantique, et ça aurait beaucoup plus de conséquences.
Serge Bessanger, est-ce que ça veut dire que l'emplacement de ces câbles, tout le monde les connaît, tout le monde sait où ils sont, par où ils passent, où ils se trouvent ?
Ah oui, bien sûr, tout le monde connaît l'emplacement de ces câbles. Vous savez, ce sont des consortiums privés qui les mettent en place. Toutes les grandes puissances connaissent parfaitement l'emplacement, oui.
Et pour, j'imagine que face à toutes ces activités russes ou supposées russes, que l'Europe redouble de vigilance, comment est-ce qu'elle fait, comment fait-on pour surveiller ces actes? Est-ce qu'il suffit d'envoyer des patrouilles?
Alors oui, effectivement, depuis 2023, on a commencé à créer une cellule de coordination au niveau de l'OTAN, hein, donc ça s'appelle la cellule de coordination pour la sécurité des infrastructures sous-marines, hein, le CSMIC. Ça a été lancé à Bruxelles officiellement en 2023. Et on a donc le Critical Undersea Infrastructure Coordination Cell qui est rattaché à Northwood, au Royaume-Uni, au quartier général maritime de la Navy.
Et donc
la Royal Navy, je précise.
Là, ce sont des patrouilles, mais est-ce qu'il faut faire plus? Est-ce que ça suffit? Est-ce que, par exemple, on pourrait mettre des caméras pour surveiller les câbles sous-marins ou interdire la navigation?
Alors, les caméras, ça coûterait beaucoup trop cher, étant donné les dizaines de milliers de kilomètres qu'il faudrait surveiller. Non, la seule façon, c'est d'avoir davantage de patrouilleurs, davantage de frégates. On n'en a pas assez. La France n'en a pas assez. L'Angleterre en a très peu également. Les Italiens en ont un peu plus, mais toujours insuffisant.
Mais pourtant, ça ne devrait pas... est-ce que c'est compliqué de surveiller des zones comme la Baltique, 55 mètres de profondeur? Est-ce que ça devrait être facile à quadriller? Ce n'est pas un espace très très grand?
Ah oui, mais quand vous avez 60 000 chalutiers, quand vous avez la Chine, vous avez 60 000 chalutiers chinois dans le monde. Vous n'avez pas les fliquer avec 60 000 frégates ou 60 000 patrouilleurs. Donc c'est franchement compliqué. Vous ajoutez les Russes, vous ajoutez d'autres bateaux également qu'ils utilisent de temps en temps. C'est vraiment, vraiment compliqué. On a très, très peu de navires en Europe. Il faudrait à minima doubler le nombre de navires de surface. Et donc ça coûte cher.
Ulrich Bouna.
Complètement d'accord. Et c'est vrai que si on prend l'exemple de la Baltique, qui pour le coup est effectivement plus ou moins un lac otanien, on voit bien que c'est quand même assez compliqué. Il y a donc effectivement la mission Baltic Sentry de l'OTAN avec des capacités notamment françaises d'observation, des avions, des patrouilles maritimes. Mais on voit bien qu'en fait, finalement, cette réponse, comme on ne peut pas mettre un navire ou un soldat derrière chaque navire qui patrouille, cette surveillance se couple en fait avec une attitude beaucoup plus ferme en fait vis-à-vis de navires qui seraient soupçonnés de couper des câbles. Alors effectivement c'est un peu a posteriori, mais ça, je pense que ça peut fonctionner, c'est-à-dire que on a bien vu en fait que depuis 2022 les premiers navires qui ont commencé à couper des câbles en laissant traîner des ancres en Baltique, on les a pas vraiment empêchés de partir. La réponse a été de plus en plus ferme. Désormais il y a des navires qui ont été arraisonnés directement par notamment la marine finlandaise, la marine allemande. Il y a un navire fantôme russe qui sert donc à à la base a contourné les sanctions pour le pétrole, mais qui là visiblement avait décidé en plus de couper un câble, qui a été saisi par l'Allemagne et véritablement et sa cargaison aussi. Et donc ça, typiquement, ce genre d'action beaucoup plus coercitive où grosso modo on confisque les navires que l'on soupçonne, ça peut avoir un impact beaucoup plus important sur les Russes.
L'Estonie aussi a adopté hier une loi qui lui permettrait de couler les bateaux suspects qui touchent au câble sous-marin près de ses côtes. Et je précise, voilà, on a rappelé qu'il y a quelques semaines, les États baltes se sont officiellement déconnectés du réseau électrique russe. Donc là, avec cette loi agressive de l'Estonie, c'est un peu admettre qu'il y a une guerre, Ulrich Bouna. Est-ce que vous préférez, quel terme vous utiliseriez ? Guerre hybride ?
Alors, guerre hybride, trop. Effectivement, on n'est pas dans la guerre ouverte dans le sens où on n'a pas véritablement d'action kinétique, enfin, on va dire des actions militaires véritables, voilà, avec des bombardements, ce genre de choses, des soldats qui se tirent dessus. Mais en revanche, effectivement, on est sur des actions de déstabilisation qui passent par, effectivement, couper des câbles en Baltique, mais aussi brouiller les signaux GPS depuis Kaliningrad, installer des missiles balistiques intercontinentaux, ou en tout cas, moyenne à Kaliningrad, des actions de déstabilisation dans les pays baltes, en Pologne, avec des incendies un petit peu complètement criminels, ce genre de choses. Donc ça rentre dans un contexte beaucoup plus global. Effectivement, le couper des câbles, ça fait partie de l'ensemble des outils utilisés par la Russie pour mettre la pression sur l'Occident et aussi déstabiliser son étranger proche.
Alors on parle de la déstabilisation russe sur les Occidentaux, Serge Bessanger. Est-ce que la Russie peut aussi ne risque pas aussi d'être privée de réseau si elle-même elle coupe des câbles internet, par exemple, par où passe les câbles qui l'alimentent ?
Aucune importance. Vous savez qu'en fait, les câbles Internet, donc ça nous permet à nous, occidentaux, d'avoir à peu près 10 000 milliards de dollars de transactions par jour, mais les Russes n'ont pas de transactions, ni financières, ni commerciales. Il ne faut pas oublier que la Russie, c'est un pays qui est plus petit que la Hollande en termes de poids économique, et en termes de commerce, c'est même pas la moitié de la Hollande, et en termes de finances, c'est le tiers d'Amsterdam. Donc vous savez, la Russie, c'est un pays totalement tourné vers l'intérieur, et eux-mêmes ne craignent pas tellement ce genre de choses.
Et alors, des puissances, est-ce que des puissances, Ulrich Bouna, occidentales, pourraient, elles, en représailles, lui rendre l'appareil ? Est-ce que les Occidentaux s'interdisent plutôt d'utiliser ce genre de méthode agressive ?
C'est une très bonne question. C'est compliqué d'y répondre parce que tout n'est bien évidemment pas public. Il y a quand même des messages qui sont envoyés. Ça peut passer notamment par des arrestations de personnes que l'on estime déstabiliser les pays, des expulsions de diplomates, mais qui sont en fait des espions. C'est assez compliqué de répondre en fait à des actions de guerre hybride, et c'est pour ça que la Russie la pratique assez assidûment. C'est parce qu'en fait, d'une part, les démocraties, normalement, essayent de s'interdire justement ce genre d'action de déstabilisation. Alors, on en fait certainement, mais probablement pas à la même échelle que la Russie. Et deuxièmement, on est normalement tenu plus ou moins par l'état de droit qui fait qu'on doit appliquer des lois et on ne peut pas se permettre d'agir un petit peu à la hussarde. Donc, néanmoins, effectivement, la guerre de l'ombre, elle se poursuit, c'est une évidence. Il y a des signalements qui sont faits. Il est très probable, on sait par exemple que les Américains des fois envoient des signaux assez clairs, notamment sur certains, parce que cette guerre hybride elle se déroule aussi dans le cyberespace, donc il y a des signaux extrêmement clairs qui sont envoyés avec par exemple des réseaux, on va dire cyber russes de déstabilisation et de hackers qui sont désactivés à distance par les Américains pour bien faire comprendre aux Russes, on vous voit, on sait qui vous êtes et on peut intervenir directement chez vous. C'est la raison aussi pour laquelle la Russie essaie de s'isoler un maximum, notamment au niveau internet, en créant un petit peu le RuWeb, donc un espèce de réseau internet qui serait déconnectable à tout instant et autonome. Mais donc effectivement, a priori quand même, les Occidentaux n'utilisent pas les mêmes outils, en tout cas pas la même puissance que les Russes.
Est-ce que, Serge Bessanger, il nous reste très peu de temps, ça montre aussi que le monde est trop dépendant de ces câbles, et est-ce que c'est dangereux ?
On n'a pas tellement d'alternatives, parce qu'en fait, la seule façon d'envoyer beaucoup de données, c'est les câbles. La bande passante des satellites ne permet pas d'envoyer autant de données que les câbles. On n'a pas tellement d'autres choix, finalement. Et puis, comme le disait Ulrich, on n'a pas de choix non plus. On est obligé de suivre le cadre juridique, qui est celui de l'UNCLOS, de la CNUM, de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Et quand vous regardez le fameux Yipeng 3, le vaisseau chinois qui avait coupé des câbles dans la Baltique et qui a été arraisonné par les Suédois, ils ont tout de suite relâché l'équipage et le bateau, sans amende, sans rien. Parce que justement, les Occidentaux respectent le droit.
Et on va conclure là-dessus. Merci beaucoup. On comprend qu'on risque encore d'entendre parler de ces câbles endommagés, de mystérieux capteurs russes dans les eaux de l'Atlantique. Merci Ulrich Bouna, analyste géopolitique, spécialiste de l'Europe centrale et de l'Est. Et merci également à vous, Serge Bessanger, professeur à l'ESCU.